footprint.
Oui, c'est Pierre-Carles. C'est pour Alexia. En fait, oui, il n'y a pas de problème. On veut enregistrer du son là, lors de la... Je sais plus quoi, là, de la présentation ce soir de Nivelli Traite, qui s'appelle maintenant Guérilla Française, qui a changé de titre, et de fin de concession demain. Voilà. Mais à tout à l'heure. Salut.
Bonjour à toutes et à tous. C'est Forêt Reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance.
Lundi dernier, 29 novembre, la bibliothèque municipale de Périgueux accueillait la projection de Guérilla Française. On va écouter ce que Pierre-Carles disait de la soirée de sabotage du dîner du siècle à Paris le 24 novembre.
Il y a trois jours, on était 300 environ à aller perturber une réunion, entre guillemets, le dîner du siècle à Paris. Et ça s'est terminé par une cinquantaine d'arrestations. On avait oublié que le préfet de police de Paris faisait partie des membres du dîner du siècle, donc il n'était pas très content qu'il y ait 300 personnes en train de jeter de la farine, des œufs, du PQ et de perturber cette réunion de puissants. Donc il nous a envoyé une grosse présence de forces dites de l'ordre qui s'est terminée effectivement par une cinquantaine d'interpellations et pour manifestation non déclarée sur la voie publique, ce qui n'est pas rien non plus, mais ça les amuse moyennement qu'on vienne place de la Concorde perturber leurs agapes, et c'est ce qu'on a fait à deux reprises là il y a un mois et il y a trois jours, il y a quatre jours, voilà. Mais c'était plutôt on se battait pas contre le fait que les puissances se réunissent, mais contre le fait que des journalistes voilà, ça oui, en tout cas, dans le film qui passe demain, fin de concession, il est question de ce dîner du siècle, même si la scène dont vous parlez n'est pas dans le film, puisqu'elle a eu lieu il y a quatre jours. Ça figurera dans le DVD, on va dire, ou dans une nouvelle version dans quelques mois. Mais on est en train d'essayer de les énerver un peu et de faire en sorte que les journalistes qui vont dans ces lieux-là aient honte d'y aller, quoi, parce que ce sont des responsables de l'information qui vont côtoyer les puissants pour ensuite relayer le discours des élites économiques et politiques. Et pour nous faire la morale, oui, pour nous faire la morale ou pour délivrer le catéchisme ultra et néolibéral. Et là, mercredi dernier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont rebroussé chemin. Christine O'Krent, voyant le bordel, est repartie. C'était pas la seule, il y en a d'autres qui sont pas venus. Eric Woerth, qui devait venir, n'est pas venu carrément. Quand il a vu le truc, il allait se faire siffler, huer, conspuer. Donc voilà. Donc on a quand même réussi à perturber leur truc. Et là, ils sont un peu énervés parce que ça fait 60 ans que ce club se réunit et ils se demandent s'ils vont pas le déplacer, en faire un rendez-vous clandestin. Enfin voilà. Qu'au moins ils se cachent et ils aient honte de ça. Quoi. Si on arrive à ça, ça serait déjà. Enfin, c'est déjà une victoire de les avoir obligés à défendre ce lieu avec un nombre aussi impressionnant de CRS, parce que eux ils préfèrent se réunir discrètement sans qu'on vienne les emmerder, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce lieu-là est en vis-à-vis de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que vous avez de l'autre côté de la Seine le lieu où se réunissent normalement les représentants du peuple, et de l'autre côté, vous avez l'hôtel Crillon, place de la Concorde, en vis-à-vis, où vous avez des gens qui n'ont pas été élus, qui se réunissent et qui prennent pas des décisions comme à l'Assemblée nationale, mais en tout cas qui ont une influence sur la vie de nos sociétés très importante. Donc vous avez ce club là qui a ce pouvoir et qui est comme par hasard de l'autre côté, juste en face de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une manière pour eux de dire on est aussi important que l'Assemblée nationale. C'est pas par hasard qu'on se réunit là. Voilà. Je pense que symboliquement il y a ça aussi dans leur désir d'être là. Chirac, le père y était, le fils je sais pas. Je crois que Thibault n'y est pas, mais peu importe. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens comme Nicole Notat, qui va devenir en janvier la prochaine présidente du siècle en remplacement de Denis Kessler. Kessler étant l'ancien numéro 2 du MEDEF, très proche de Dominique Strauss-Kahn. Et c'est lui aussi, Kessler, qui a demandé à ce qu'on renonce aux acquis du CNR, du Conseil National de la Résistance. Il a dit qu'il fallait foutre en l'air tous les acquis du Conseil National de la Résistance. Donc c'est vraiment la droite dure, c'est le MEDEF pur et dur, enfin normal, quoi. Et Notat va effectivement remplacer, mais alors ça c'est une volonté pour eux de faire croire qu'ils seraient qui serait plus à gauche, qui serait un peu moins à droite, enfin ce club, en mettant cette personne à sa présidence. Le Mélenchon, soit c'est un très bon comédien, c'est possible, hein, mais apparemment il ne connaissait pas le siècle. En tout cas, il fait pas partie du siècle. Il n'a jamais été copté. C'est une cooptation le siècle. Hein, on est copté. Il n'a jamais été copté par le siècle. Il y a aucune personnalité de gauche non socialiste qui appartienne au siècle. Hein, ça n'existe pas. Des hommes politiques qui soient plus à gauche que le PS, il n'y en a pas au siècle. Hein. Il y a personne du NPA, il n'y a personne de la LCR, il y a personne de mouvement anarchiste ou libertaire. Donc non, ça reste quand même, c'est soit l'aile droite du Parti Socialiste, soit la droite, ou la extrême droite. Devedjian, qui est un ancien d'Occident, fait partie, mais il n'y a pas Jean-Marie Le Pen ou il n'y a pas Marine Le Pen. Ils veulent rester, on va dire, convenable. Quoi. Il faut que ce soit quand même présentable. Voilà. Donc il y a certaines personnes d'extrême droite qui n'y sont pas. Mais ça reste un lieu très connoté à droite et où quelques journalistes qui se disent indépendants, qui se disent neutres, qui se disent non partisans vont allègrement et ne racontent pas ce qui s'y passe. C'est là qu'on les a un peu coincés, c'est parce que notre action, nous, c'était de dire pourquoi vous, journalistes, vous allez chez les puissants et vous racontez pas ce qui s'y passe. Et là, ils sont emmerdés parce que normalement, effectivement, ils devraient raconter ce qui s'y passe. Donc les David Pujadas, les Laurent Geoffrin, les Patrick Poivre-d'Arvor, Alain Chabot, Emmanuel Chin, Michel Field, tous ces gens-là, ils vont, ils participent, sont contents d'y être, et en même temps, ne racontent pas ce qui s'y passe. Et c'est là-dessus qu'on les a coincés, et c'est là-dessus qu'ils sont un peu, ils n'arrivent pas à se défendre, ils sont un peu sur la défensive. Voilà. Donc si vous êtes dans un mois, si vous voulez vous passer à Paris, je crois que c'est le 22 normalement, c'est pas sûr, mais il est question qu'on refasse une petite action, mais ça risque de se terminer au poste, hein, donc et peut-être plus qu'au poste, parce que la dernière fois ça aurait pu plus mal se terminer.
Forêt reclus à l'Elysée avec Pierre Carl. Forêt reclus à l'Elysée, c'est aussi sur internet, le site de la radio où on peut nous écouter en direct, radioperigueux103.com, et le site où on stocke les émissions, audioblog.arteradio.com/forêt reclus à l'Elysée. Donc ce soir on parle de Guérilla française, un film qui s'appelait au départ Ni vieux ni traître, sur l'histoire d'Action directe. C'est un film qui doit évoluer pour sortir en salle. Donc Père Carl, dans son intervention à Périgueux, il nous parle de son projet, de comment il voit l'évolution du film. Donc dans l'émission d'aujourd'hui, on vous livre les propos de Pierre Carl lors de la présentation lundi à la bibliothèque.
D'ailleurs, dans une prochaine émission, nous diffuserons les échanges avec le public de Tap Cinéma lors de la projection du film Fin de concession, mardi dernier. Et donc, qui était un débat sur la critique de la télévision et des médias.
Pour ce qui est de la discussion de lundi autour de Guérilla française, donc dans ce qu'on va entendre, il y a des commentaires sur ce qu'on voit dans le film. Donc il y aura des choses qui échapperont à qui n'a pas vu le film, quoi. Mais on a pensé que c'était bien de garder l'intégralité de l'enregistrement. Il y a aussi un petit passage au début où le son est relativement mauvais. Mais rassurez-vous, ça ne dure pas longtemps, quoi.
Alors le début de la discussion est tronqué. Il était question de la censure d'un entretien avec Joël Aubron par Arlette Chabot de France Télévisions.
En réalité, ce qui dérangeait la télévision et notamment France Télévisions en cette affaire, c'est que Joël Aubron ne correspondait pas au cliché de la terroriste. Elle correspondait pas à l'image d'Épinal de la terroriste, c'est-à-dire tel que c'est construit par les médias. Les médias, ils veulent voir des terroristes qui sont sectaires, dogmatiques, inhumains, qui n'ont pas de pensée ou qui ont des pensées très simplistes, et voir quelqu'un qui demande pour son pire ennemi qu'on ne le mette pas en prison parce qu'elle a connu la prison et qu'elle ne souhaite pas la prison à ses pires ennemis, c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose que la télévision ne veut pas entendre, quoi. Voilà. Donc il y aura probablement, on renforcera l'enquête sur la construction médiatique de la figure du terroriste, comment les médias écartent toute question et tout débat sur les questions qui sont posées dans ce film en fabriquant cet être qu'ils appellent le terroriste et qui permet de ne pas discuter et de considérer qu'il n'y a pas de discussion possible. Voilà. Donc ça sera une des séquences, il y en a encore d'autres, une des séquences qu'on ira probablement tourner. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce film ou aux autres, mais peut-être pour commencer par rapport à celui-là, ou des réflexions, hein, pas forcément des questions, des remarques, des critiques.
Oui, là je retrouve plus que référence à... Alors, moi je trouve que référence à des choses que l'on n'a pas vues, ces spectateurs-là.
Oui, bah,
c'est que on a fait circuler différentes versions de ce film depuis... Donc on a commencé le tournage en 2000. Ça fait 10 ans qu'on a commencé à tourner cette histoire. On a fait une première version qui s'appelait Milieu d'Ytrèque, qui a été projetée en 2004 à Paris, dans une grande salle, une grande projection. Il y avait Joël Legrand qui était encore vivante à l'époque. On la voit d'ailleurs, c'est voilà, où elle a le turban là, c'est un reste de cette projection.
Oui, avec.
La projection en était très houleuse, parce que les gens attendaient tous un film qui n'existait pas. Il y a des gens qui voulaient un film sur l'histoire des actions directes, pas sur l'histoire du groupe Action Directe, d'autres qui voulaient une histoire du groupe Action Directe, d'autres qui voulaient un film plus radical, d'autres un film où il y avait des victimes, où on aurait pu entendre des victimes. Enfin, tout le monde était mécontent, finalement, mais on avait, dans une autre version, mise en abîme cette projection avec la première version, enfin, il y avait un... Sauf que les monteurs qui ont travaillé sur cette version trouvaient ça très compliqué et... Cette mise en abîme supposée, des présupposés sur le premier film, et puis elle donnait un rythme au film très différent. Ça partait vraiment très très fort, et après ça retombait, parce que le rythme de début n'était pas tenu forcément. Et il y a plein de choses, comment dire, dans les films il ne faut pas mettre des pistes qu'on ne travaille pas, ou qu'on n'explore pas, ou qu'on laisse tomber en cours de route.
Et là, les pistes, comment dire, il y avait tout un tas de pistes qui étaient lancées, et sur lesquelles qu'on n'explorait pas, parce que... Le problème de ce genre de film, c'est que tout le monde attend un film qui n'existe pas, que personne n'a fait pour l'instant. Il faut dire que ces gens-là, on n'est jamais allé les voir comme nous, on est allé les voir, c'est-à-dire sans les juger, sans jugement moral, et sans porter de jugement moral sur les actes, moralisateur plutôt. Il y a un jugement moral, mais pas moralisateur. Et c'est vrai que c'était un montage très compliqué, et en fait, voilà, on a finalement renoncé à ce montage. Mais par contre, les débats en question, on les foutra un jour en bonus d'un DVD ou je sais pas quoi. Enfin, on les va pas les virer complètement. Mais la mise en abîme, on l'a abandonné, sachant qu'il faut. Moi, dans plusieurs de mes films, j'ai déjà fait des mises en abîme, et il faut pas en abuser non plus. Ça devient un procédé assez, on va dire, facile à un moment donné. Et c'est aussi une manière pour le réalisateur. Ça peut être une manière pour les réalisateurs aussi d'intégrer la propre critique dans le film et de couper court à toute critique. Ce qui est assez pervers, tu vois. Moi, quand on me fait ce coup-là, j'aime pas trop. Parce que je me dis, ah, en fait, tu veux pas que je critique ton film, puisque tu intègres dans ton propre film ta propre critique. Attention à ce genre de choses. Et donc, ce que j'aime pas qu'on me fasse, moi, en tant que spectateur, il y a un moment où j'essaie de ne pas le faire en tant que réalisateur. Voilà. Mais après, j'entends ce que tu dis, hein. Quand on voit tous les films, on peut être déçu par une version par rapport à une autre. Enfin, voilà. Il y a des gens qui regrettent aussi la toute première version, celle où il n'y a pas la mise en abîme, celle qui précède celle qui a été projetée à Paris en 2004. Il y a des gens qui regrettent cette version, qui est encore différente de celle-ci, et qui disent que c'est la meilleure. Bon, voilà. Chacun a... Voilà. Mais pour un spectateur, il va voir ce film, il va pas en voir d'autres. Voilà. Et ça pose d'autres questions. Voilà. Mais oui, bien sûr. Oui. Mais le problème avec cette histoire, c'est qu'il faut d'abord l'exposer avant de pouvoir. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Des gens que l'on n'entend jamais, des propos qui sont dissidents ou minoritaires, non orthodoxes, hérétiques. Il faut d'abord avoir la possibilité de les entendre avant de pouvoir se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils produisent comme effet, ces propos. Et là, on avait mis la charrue avant les bœufs, tu vois, dans la version que tu as vue. Donc là, on a fait le choix de revenir à quelque chose de plus simple, de plus lisible, de plus accessible à un public plus large, qui ne demande pas de présupposés. Et je pense que, même si c'est pas fini, c'est la bonne direction, voilà, c'est la bonne direction. Et en essayant d'élargir à la fin, c'est pas un petit peu là, mais ça va être en élargissant, en allant du groupe Action Directe vers les actions directes. C'est-à-dire vers le concept d'action directe, c'est-à-dire des gens qui à un moment donné disent non, c'est pas possible, et même s'il faut partir dans l'illégalité ou mener des actions illégales, comme les actions anti-OGM, il y a un tas de gens qui pratiquent l'action directe ou les actions directes sans faire partie du groupe Action Directe ou sans se revendiquer du groupe Action Directe. Donc le film va essayer, quand il sera fini, d'élargir un peu le propos pour ne pas se concentrer sur le groupe Action Directe, mais sur les actions directes en général. Voilà. Et sur l'histoire de ces actions directes qu'on a oubliées ou qu'on veut cacher ou qui font pas partie des manuels d'histoire. Vous regardez aujourd'hui les manuels d'histoire, je sais pas s'il y a des profs d'histoire ici, ça m'étonnerait qu'on évoque cette partie de l'histoire de France des années 70-80, des gens qui ont pris les armes dans ce pays. C'est sûr que ce genre de film, vous les verrez pas à la télévision, de sitôt en tout cas. Vous voyez plutôt la version que la télévision raconte de l'histoire. Il y a notamment cet incroyable téléfilm de TF1 dont figurent quelques extraits là, où le procureur joué par Jean-Louis Anglade, hein, ou Jean-Hugues, bon, est très méprisant à l'égard des gens d'Action Directe. Et alors là, il y a une autre séquence qu'on veut tourner, c'est aller voir la scénariste ou la réalisatrice de ce téléfilm qui a été produit par TF1, parce que lorsque le procureur, lors de l'arrestation des quatre derniers historiques d'Action Directe, les passe en revue et est très méprisant avec eux, il arrive devant Georges Cipriani, qui est le dernier de la bande dans l'ordre là, et au lieu de dire Georges Cipriani, ouvrier de Renault, il oublie de préciser que Georges Cipriani était ouvrier de Renault. Surtout qu'on n'établisse pas de lien entre l'assassinat d'un PDG et, parmi les membres du groupe, la présence d'un ouvrier de Renault. Ça, il n'est pas question. Donc on est prêt à réécrire l'histoire comme le faisaient les pays de l'Est, où on gomme des éléments, où on gommait des visages quand quelqu'un ne convenait pas. Enfin, vous souvenez, dans certains pays communistes, on faisait ça. Ben, nous, on fait pareil. Nous, enfin, la télévision, on gomme des informations qui pourraient être embêtantes, parce que ça permettrait d'établir des liens en se disant « Ah ben oui, dans le groupe, il y avait un type de chez Renault, quoi. » Donc peut-être que cette action, elle prend un autre sens tout d'un coup. Voilà. Oui, pourquoi il n'y a que des initiales dans la rubrique documentalise en générique, parce que pas mal de gens me sortent des documents des chaînes de télévision et je les protège en les citant uniquement par les initiales pour pas qu'ils aient d'ennuis lorsqu'ils sortent des reportages censurés par France 2, lorsqu'ils sortent des téléfilms de TF1, lorsqu'ils sortent des choses qui sont parfois montrées ici pour la première fois ou qu'ils ont sorti de chaînes de télévision. Donc c'est pour protéger les complices, les comparses, les délinquants des chaînes. De résistance pour ce genre de film, mais là, vous ne trouverez pas d'argent pour faire ce genre de film. Pour l'instant, il est complètement autoproduit. On l'a fait avec Georges et Page et Images, avec une société qui a mis un peu de moyens de montage et de tournage. Mais ce sont des films qui... C'est très difficile de trouver de l'argent pour ce genre de film. Je pense que la vraie raison, c'est que cette histoire-là, qui était inaudible il y a encore 10 ou 15 ans, c'est-à-dire attaquer le capitalisme, s'en prendre au capitalisme de manière aussi violente comme l'a fait Action Directe, le problème, c'est que depuis, il y a eu les suicides chez France Télécom. Il apparaît maintenant de plus en plus visible que le capitalisme, et comme le dit Joël Aubron, on ne fera jamais couler autant de sang qu'il en a fait couler, nous. Ouais, c'est sûr, hein. Quand vous voyez que France Télécom, il y a eu 30 morts, hein, ou je ne sais pas combien de suicides. Hein. Enfin, bon. Donc quand on voit la violence du capitalisme et qu'elle ne se masque même plus, qu'elle n'est même plus dissimulée, les actions des gens d'Action Directe commencent à devenir, on peut en discuter. On peut commencer à en discuter, à se dire, ben, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas été... Est-ce que c'était pas légitime de s'opposer, parce qu'ils ont attaqué ce capitalisme-là au moment des premières grandes restructurations au début des années 80, au moment où nous on n'avait pas encore vu arriver le capitalisme financier, on n'avait pas encore vu ce qu'on voit aujourd'hui, mais eux on s'en sont pris de manière très radicale à ce système. Ils ont attaqué, je me souviens, ils ont essayé d'enlever le vice PDG du MEDEF, le numéro 2 du MEDEF, Guy Brana. Ils s'en sont pris à Georges Besse qui restructurait à ce moment-là Renault en supprimant 20 000 postes. Ils s'en sont pris, ils ont mitraillé le siège du MEDEF, ça s'appelait le CNPF à l'époque. Donc ils avaient un combat anticapitaliste très marqué, très radical, et ils ont été immédiatement étiquetés terroristes parce qu'il y avait aussi des attentats venant du Proche-Orient à Paris à ce moment-là, mais des attentats, des bombes à la FNAC ou dans des lieux publics, ce que n'a jamais fait Action Directe. Action Directe, normalement, on ne devrait pas les qualifier de terroristes, puisque le terroriste sème la terreur dans la population en commettant des attentats aveugles, comme l'a fait l'OAS à une époque. Hein, l'OAS est un groupe terroriste. Soit dit en passant, l'OAS, après la guerre d'Algérie, aucun des membres de la OAS, il y a eu quelques condamnés à mort, mais aucun des membres de la OAS n'a fait 25 ans de prison ou 27 ans de prison comme les gens d'Action Directe. Ils ont tous été amnistiés, sauf ceux qui ont été condamnés à mort. Il y en a eu quelques-uns, très peu. Ils ont tous été amnistiés par le général de Gaulle, alors qu'ils ont fait des centaines de morts et ils ont commis des attentats aveugles. Donc vous voyez le deux poids, deux mesures hein, pour une organisation d'extrême droite et une organisation d'extrême gauche, comme ceux d'Action Directe. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que pourquoi les médias continuent de fabriquer cette figure repoussoire du terroriste, c'est parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on discute de la violence du capitalisme et de la réaction qui pourrait que certains pourrait mettre en place contre cette violence-là. Dans les années 70, il y avait l'écrivain Jean Genet, dont on fête en ce moment le centenaire, à la une du Monde, en 77, à la une du Monde, vous aviez une tribune libre de Jean Genet qui expliquait que la violence de la RAF, la fraction armée rouge, donc l'équivalent d'Action Directe en Allemagne, ne faisait que s'opposer à la brutalité du système capitaliste. Vous aviez des grands intellectuels qui considéraient ça comme légitime qu'il y ait des réactions à la brutalité, à la violence du capitalisme. Et c'était débattu. Ça faisait discussion. On était pour ou contre, peu importe, on pouvait en discuter. Depuis la fin des années 70, début des années 80, c'était indiscutable. Ces gens-là sont des dingues, sont des fous, n'ont aucune humanité. Je pense que notre film, s'il produit un effet aussi, c'est de leur redonner un minimum d'humanité. C'est des gens qui ont une pensée. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais au moins on voit qu'ils ont une pensée structurée, qu'ils réfléchissent, qu'ils se posent des questions, qu'ils sont capables aussi d'autocritique ou de lucidité. Joël Aubron est la première à dire on a été battu, on a été défait, on a perdu, voilà. Donc tout ça, ça leur avait été jusqu'à présent par les médias ou par le cinéma aussi nié. Il cautionne pas, Mélenchon ne cautionne pas les actions d'Action Directe, mais ce qui est intéressant, c'est là aussi, ce qui est intéressant, c'est comment les médias veulent le pousser à condamner les séquestrations de patrons. Vous avez vu, c'est le trio là, Jean-Michel Apathy, une chroniqueuse du Figaro et un autre chroniqueur de je sais plus où, de LCI, qui veulent absolument lui faire dire, bon, on peut comprendre que les ouvriers, effectivement, soit en colère, mais de là à séquestrer les patrons, il faut le condamner. Donc c'est ça, ils veulent le pousser à condamner. Et ils veulent surtout pas, c'est ce que fait Jean-Michel Apathy à un moment donné, qu'il établisse un lien de cause à effet entre les actions de séquestration des ouvriers ou de rétention, on va dire, de patrons, et la misère, sociale, la souffrance au travail. Et, je crois qu'Apathy dit c'est hors sujet. Hein, surtout pas de lien de cause à effet. Voilà, ça c'est leur grande trouille, ça, aux médias, c'est qu'on puisse établir des liens de cause à effet. Non, c'est des ouvriers qui, sous le coup de la colère, se sont un peu emportés. Mais ils l'ont pas fait pour des raisons politiques, ils l'ont pas fait parce qu'ils portent un discours et ils portent une expérience et un vécu. Non, ça non. Bon, il faut dire que ces journalistes, en général, vivent dans des sphères telles qu'ils peuvent pas bien comprendre ce genre de choses, parce qu'ils les vivent pas, eux. Enfin, ces journalistes éditorialistes, en tout cas. Mais, je sais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois qu'un politique, on va dire... sénateur, quelqu'un qui est pas vraiment un marginal, défend mordicus, et un législateur en plus, législateur, quelqu'un qui fait la loi en tant que sénateur, dit il faut désobéir, il faut... Ça c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, mais le plus intéressant c'est comment ces journalistes veulent absolument pas qu'ils tiennent ce discours. Voilà, c'est ça ce qui me semble le plus intéressant, c'est comment ces journalistes veulent lui faire dire on comprend mais on condamne, on comprend mais on condamne ce genre d'action. Ils sont emmerdés parce qu'ils s'attendaient pas à cette réaction de Mélenchon. Ils pensaient que Mélenchon allait dire oui, non, ils ont un peu dérapé, mais je les soutiens, mais attention aux dérapages. Non, même les dérapages, il dit non, s'ils dérapent, j'irai chercher de l'argent. C'est vrai que c'est assez étonnant. Et ils sont un peu emmerdés parce que c'est pas le discours qu'ils attendent. Mais on voit dans quel camp ils sont. Ils veulent absolument pousser un responsable politique à condamner ce genre d'action, quoi. Alors ça, c'est le patronat. C'est la déclaration qu'on entrevoit là dans un journal sur RTL. Là, c'est le numéro 2 ou 3 du patronat qui s'appelle Geoffroy de Bézieux, hein, pour vous dire d'où il vient socialement. C'est quoi son prénom? C'est Geoffroy Guy? Non? Je sais pas. Enfin bon. C'est lui qui a établi ce lien entre... qui est à la fois vrai et faux. Alors c'est assez paradoxal parce qu'en fait il dit on commence par séquestrer un patron et ça se termine par la mort de Georges Besse. C'est ce qu'il veut effrayer la population en faisant ça. Et en même temps... Là où il a pas donc il y a quelque chose d'excessif dans la volonté d'effrayer le peuple, et en même temps il a eu la pas tort, c'est que effectivement vous avez en Inde je sais plus il y a pas très longtemps un patron qui a été lynché par ses ouvriers parce que il les avait surexploités. Je sais plus, vous vous souvenez pas de cette histoire? Il y a même un ministre hindou qui a pas condamné cette action, qui a dit bah oui, si les patrons se comportent comme des voyous, faut qu'ils s'attendent à ce genre de réaction. Donc ce lien qu'il établit n'est pas non plus complètement faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une continuité, mais il n'y a pas un chemin si éloigné que cela entre ce type d'action directe, aller séquestrer un patron ou menacer de foutre des produits toxiques dans des rivières, dans des entreprises qui font l'objet de restructuration ou délocalisation, et les actions menées par Action Directe qui ont effectivement tué deux personnes, mais qui ont aussi mené tout un tas d'autres actions, attentats, mitraillage du siège du patronat, qui sont pas si éloignées que ça finalement de celles des séquestrations, sachant que le terme séquestration est à manier avec précaution, parce que vous avez vu, on risque 20 ans de prison si on séquestre quelqu'un, si c'est une séquestration. Donc c'est une rétention, on va dire. Voilà. On parlera de rétention de patron. Oui. Pour répondre à la deuxième question, en fait, Action Directe ne se réduisait pas aux 4 qui ont été arrêtés et condamnés en 86, arrêtés en 87 et condamnés à plusieurs dizaines d'années de prison et qui sont... Jean-Marc Rouillon est toujours en prison aujourd'hui. Il y a eu d'autres personnes qui ont appartenu à Action Directe. On voit Jean Alphen, celui qui a des lunettes, à un moment donné, son frère également, et il y a une mouvance d'une centaine de personnes au total qui a, de près ou de loin, voilà. Frérot faisait partie des Lyonnais qui étaient proches d'Action Directe. Il y en a un autre qui a fait 25 ans de prison ou 26 ans de prison, c'est Régis Schlecher, qui était aussi un des membres d'Action Directe. Enfin, il y a plein de gens qui sont pas cités dans le film, hein. C'est pas un recensement exhaustif des gens qui ont été dans Action Directe. Après, les liens avec les Allemands et les Italiens ont existé, mais il y avait quand même, chez certains d'Action Directe, une grande filiation avec la guerre d'Espagne, avec la guerre contre le franquisme, contre le dictateur Franco en Espagne. Rouillant, à 20 ans, il est clandestin à Barcelone en 1973, près de Salvador Puigantich, qui est un des militants antifranquistes, qui va être garrotté, qui va être un des derniers garrottés, condamné à mort et garrotté par le régime franquiste. Et Jean-Marc Rouillant, à 20 balais, il est guérillero à Barcelone. C'était bien avant la création d'Action Directe. Donc l'une des grosses filiations, quand même, pas unique, mais importante, c'est l'Espagne. C'est le fait d'avoir baigné dans l'histoire aussi des brigades internationales. En 74, à Toulouse en 74, vous avez encore des attentats. Vous avez la fin de la guerre d'Espagne. C'est à Toulouse en 1974 que des jeunes Français, souvent d'origine espagnole, mais pas uniquement, comme Rouillant, vont commettre des attentats contre le consulat d'Espagne, contre Iberia, la compagnie aérienne, les locaux d'Iberia. Toute une série d'attentats en 1974, c'est une année explosive, 1974, en France, parce qu'il y a des jeunes Français qui considèrent inacceptable qu'aux frontières, il y a encore une dictature et qu'on fasse rien contre cela, que l'État français laisse ça et s'en foutent. Donc ils commettent des actions directes à ce moment-là. Mais... les liens ensuite existeront dans les années 80, pas 70, avec les Brigades Rouges et surtout la RAF. C'est surtout avec la RAF qu'il y aura des liens entre certains membres d'Action Directe. Il y aura des actions communes qui vont être menées contre des bases militaires américaines en Allemagne, contre l'occupation américaine en Allemagne. Il y a des actions qui vont être menées à ce moment-là. Et voilà. Mais bon, après, moi, je suis pas un spécialiste de l'histoire de ces groupes-là. Hein. Et l'histoire n'est pas écrite. Il n'y a aucun livre. Je peux même pas vous recommander un livre. Il n'y a toujours pas de livre de référence sur l'histoire d'Action Directe et de ces mouvements-là. Voilà. La seule histoire qui existe, c'est celle du pouvoir, c'est-à-dire l'histoire de policière ou judiciaire. Voilà. C'est la seule version disponible aujourd'hui. Des souvenirs de commissaires qui ont arrêté Action Directe, de Robert Broussard ou de Baril ou des gens comme ça, quoi. Donc, des versions assez tronquées, on va dire. Oui? Rouillant écrit des livres, oui, mais il ne s'est pas encore exprimé véritablement sur l'histoire d'Action Directe. Il est en train d'écrire un livre, normalement, mais s'il ressort de prison, il n'aura pas le droit de s'exprimer là-dessus. Donc vous pourrez attendre assez longtemps avant de lire ce livre, à mon avis. À moins qu'il reparte encore pour rejoindre Auguste Blanqui, qui a passé, je crois, 36 ans en prison, hein, le plus vieux, hein, plus vieux prisonnier politique de France. Rouillant est à 27 ans. Hein, il en est à 27 ans, je pense que... s'il continue de ne pas se renier, et si le pouvoir continue de se venger contre lui comme il le fait, il y a de fortes chances pour qu'il y soit encore pour quelques temps.
Vingt-trois ans qu'il est encristé, 23 ans qu'il est en zonzon, 23 ans qu'il est enfermé, et peut-être bien qu'il a raison, la peine de mort s'est relouquée, bien blanche, bien propre sous les néons. dans ce beau pays, mon frère. Désigne jamais un militaire, et encore moins un grand patron. Y'a rien de plus grave pour la nation. 23 ans qu'il est en prison, c'est plus qu'Albert Speer ou Papon. Faut tuer dans l'œuf la rébellion, un bon exemple pour toutes les leçons. 23 ans qu'il est encristé, 23 ans qu'il est en zonzon, 23 ans qu'il est enfermé, peut-être bien qu'il a raison, la peine de mort s'est reluquée, bien blanche, bien propre sous les néons. 23 ans qu'il est à l'ombre, qu'il écrit contre la mort lente, l'arithmétique mène à la tombe, sans bourreau ni veuve, sanguinolente. 23 ans qu'il est en tôle, il en est sorti quelques instants, il y est retourné aussitôt le drôle, c'est pas son genre le reniement. 23 ans qu'il est en Christé, 23 ans qu'il est en zonzon, 23 ans qu'il est enfermé, peut-être bien qu'il a raison, la peine de mort s'est reluquée, bien blanche, bien propre sous les néons. 23 ans qu'il est en prison, il a eu le temps de l'avoir changé, toujours plus dur pour les pions à l'image de la société. 23 ans qu'il est en cabane, sa plume n'a fait que s'aiguiser, ils en ont peur dans les arcanes, ils aimeraient tant le voir pleurer. 23 ans qu'il est en crispé, 23 ans qu'il est en zonzon, 23 ans qu'il est enfermé, peut-être bien qu'il a raison, la peine de mort s'est reluquée, bien blanche, bien propre sous les néons. Vingt-trois ans qu'il est en Christé, 23 ans qu'il est en zonzon, 23 ans qu'il est enfermé, 23 ans qu'il est en violon, il serait peut-être temps de libérer avant qu'il ne crève pour de bon.
En fait, il a de telles difficultés d'expression. Moi, je le visite en prison assez régulièrement. Il a perdu l'usage de la parole à cause de l'isolement. Il a été soumis à ce qu'on appelle une torture blanche, c'est-à-dire pendant 7 ans, je crois, il était personne ne lui parlait à part son avocat, enfin les quelques visites auxquelles il avait droit. Donc il a fini par perdre l'usage de la parole et il s'exprime difficilement. Il n'a pas un langage fluide et à cause de ces 7 ans terribles, on a essayé de les rendre fous. D'ailleurs, Cipriani, un des cadres d'Action Directe, est devenu fou. Nathalie Ménigon a fait des accidents cérébraux. Joëlle Aubron a eu une tumeur au cerveau. Est-ce que c'est lié à ses conditions de détention? Je ne sais pas, mais ce n'est pas impossible. Elle est décédée. Et donc, ils ont tous été quand même très abîmés par les conditions de détention exceptionnelles. Sachant qu'ils ont revendiqué, c'est à la fois courageux et suicidaire, ils ont revendiqué collectivement les 2 meurtres pour lesquels ils ont été inculpés. Donc, le général Audran, le principal vendeur d'armes de la France à l'Irak pendant la guerre Iran-Irak, qui est la guerre de 14-18 du Moyen-Orient, 1 million de morts, une boucherie épouvantable. La France vendait des armes à l'Irak et c'était le général Audran qui était le responsable de ces ventes. Donc on peut dire qu'il y a eu, c'est un accident du travail pour un militaire normalement de mourir, hein, c'est pas. Mais ça a été considéré comme un, bah oui, un militaire qui meurt, je suis désolé, mais quand on s'engage dans l'armée, c'est pas pour faire des jolies choses en général, hein. Donc il y a le risque quand même de, il y a le risque de. C'est pour ceux qui ont vu Choron dernière, mon dernier film, le professeur Choron, qui était un ancien militaire, disait cela. Il disait, ben, un militaire ne devrait pas faire de monument aux morts, c'est pas normal. Ça doit être un monument aux accidents du travail. Comment? Samedi, vous l'avez vu le film, d'accord. Bon. Pourquoi je parlais de... Oui, donc pour ces 2 assassinats, Audran et Bess, Georges Bess, ils ont pris au total plus d'une 100 années de prison, si on cumule les peines, alors que jamais dans l'histoire judiciaire, vous prenez pour... Ils ont assumé la responsabilité collective de l'action. Ils n'ont pas voulu dire qui avait tiré, qui avait été le guetteur, qui avait été le conducteur, qui avait été le je sais pas quoi, puisque normalement la justice doit individualiser les peines et savoir quel est le niveau de responsabilité de chacun. Ça, c'est normalement la justice française, c'est ça. C'est, on fait pas des peines collectives. Il n'y a pas des peines qui est la même pour tout le monde. Mais comme eux ont refusé de jouer le jeu de la justice, ils ont fait l'objet d'une condamnation d'exception. Ils ont tous pris pareil, quel que soit leur niveau de responsabilité. Parce qu'ils n'ont pas voulu dire c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Ils ont dit on est responsable collectivement. Et la justice aurait dû chercher à établir la responsabilité. Elle ne l'a pas fait. Elle aura foutu une condamnation collective, qui est quelque chose totalement hallucinant. Et ils ont été vraiment victimes d'un lynchage judiciaire, médiatique et judiciaire.
Oui.
Oui, oui, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que Mélenchon apprécierait d'être associé de manière ou d'une autre à cette histoire. Hein. Ça serait intéressant de voir si... il a jamais... Cette version n'existe pas pour l'instant, c'est la première fois que vous la voyez, et c'est une version de travail, c'est pas sûr que le film s'achève comme cela. Ce qui nous semble intéressant à Georges Milangoa et à moi, c'est la construction médiatique, c'est comment les médias veulent que l'on parle de cette affaire, de ces affaires. Voilà. C'est plutôt ça qui nous intéressait dans cette affaire, c'est la manière qu'ont les médias de vouloir faire dire quelque chose, de faire condamner quelque chose, de verrouiller tout débat sur ces questions-là, de construire cette figure du terroriste ou de l'illégalisme et de la stigmatiser. Donc c'est plutôt ça qui nous intéressait dans cette séquence. Alors c'est vrai qu'elle a une ambiguïté, parce qu'on peut se demander si c'est pas finalement faire de Mélenchon le révolutionnaire qu'il n'est pas. C'est l'ambiguïté, je sais pas, hein, moi j'ai pas de certitude là-dessus, hein, sur le fait que cette séquence va rester ou pas. On va en discuter avec les monteurs, avec Georges, avec d'autres. C'est vrai que, voilà, si on élargit, si le film est plus costaud, il devrait l'être sur cette histoire de construction de médiatique, enfin comment les médias veulent qu'on parle de cette histoire ou qu'on n'en parle pas, ça peut avoir sa place dans le film, peut-être pas à la fin. Voilà ma réflexion à cette heure-ci, mais elle peut évoluer. Elle peut évoluer. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Le fait de mettre cette séquence en fin fait qu'on associe immédiatement, oui. Et on lui prête une radicalité qui est peut-être pas la sienne, qui est peut-être pas la sienne. Même s'il est en train il est en train de se radicaliser sur certaines questions. Oui, mais je crois qu'on voit que ces gens-là sont pas des théoriciens dogmatiques, qu'il y a eu un plaisir. On voit qu'il y a une certaine, je sais pas si on peut dire joie de vivre, mais quand on voit Joël Aubron, par exemple, on voit que c'est quelqu'un qui, même si elle a payé très cher ses engagements de jeunesse, n'est pas dans la pleurnicherie, n'est pas dans la... c'est des gens qui ont quand même, qui sont du côté de la vie, voilà, qui restent du côté de la vie et qui sont pas du côté, je pense, et c'est contradictoire quand lui dit je me suis pas battu contre les 200 familles, c'est un Basque, hein, qui dit ça. Je me suis pas battu que contre les 200 familles. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut entendre. Après, est-ce que nous, spectateurs, on l'entend, je sais pas, mais c'est ça ce qu'il voulait dire, que c'était pas, il dit, c'était pas uniquement théorique. Il y avait je crois qu'il y a une femme à un moment donné dans un reportage qui est une ancienne des Gary, donc qui précède Action Directe, qui dit que c'était un jeu de gendarmes et de voleurs. Je sais pas si c'est, elle dit ça. Il y avait un côté, voilà, on n'était pas des je sais pas quoi, des fous de la révolution. On n'était pas, on était aussi des gamins. On était aussi des gens qui, il y avait un côté pied nickelé. Quand vous voyez ce que raconte Jacques le moustachu au tout début, il parle des braquages de Jean-Marc Rouillant, là, dans une scène où il y en a un autre qui est lui, c'est un casseur. Il casse des coffres et l'autre, c'est des braquages. Il raconte l'histoire du type, là, qui, le vieux espagnol, là, qui dit, mais je veux pas me baisser, enfin, je sais pas quoi, ou qui raconte l'anniversaire des 50 ans, là, des 50 braquages rouillants. On voit qu'il y a quand même un côté pied nickelé dans leur truc. C'est des gens qui, à la fois, faisaient des choses très radicales, mais en même temps, qui se prenaient pas non plus hyper au sérieux, et qui étaient pas des dogmatiques, sectaires, voilà. Même s'il y avait peut-être des tentations, mais en tout cas, là aussi, je pense que le film casse pas mal de clichés qu'on peut avoir par rapport à la représentation de ces groupes, entre guillemets, terroristes ou d'extrême gauche, ou par rapport à la lutte armée. On a toujours des images de soldats, on a des images de... Comment ? Oui, de héros, voilà. Je pense que ça désacralise un peu la figure du héros à la Che Guevara, quoi, hein, de l'icône, du guerriero inflexible, implacable, bardé de certitude. Je crois que dans le film, on voit des gens qui... Non, qui sont pas ça, en tout cas. Peut-être que certains l'étaient, mais ceux que l'on a croisés ne l'étaient pas. Je pense qu'on sait pas, on vous raconte pas d'histoire, là. Non, non, il y a à un moment donné le moustachu Jacques qui dit, ça rigolait pas trop avec vous. Il dit ça à celui qui a des lunettes, là. Non, non, il y a des moments où il y a des Vous n'étiez pas des rigolos, alors que vous avez de l'humour. Hein, et il dit ça à un moment donné. Vos textes étaient dogmatiques et sectaires. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc, il y a des, on va dire, des contradictions qui, ou des contradictions, des conflits qui sont là. Le problème, quand même, c'est que dans ce genre de film, quand des gens sont en prison, quand vous tournez ce genre de film et qu'il y a des gens en prison, les gens qui sont sous l'œil de la caméra font quand même gaffe à ce qu'ils disent, parce que ça peut avoir des répercussions sur leurs potes ou les gens qui restent en prison. Donc, la parole n'est pas hyper libre. Il y a toujours un moment où moi, j'ai senti pendant le tournage que... on pouvait pas parler de tout, quoi. On pouvait pas faire part de toutes nos divergences entre nous, parce que ça pourrait être considéré comme on se désolidarise du pote qui est en prison. Voilà. Donc c'est des films. Moi c'est la première fois. Moi il m'est même arrivé de censurer certains propos tenus par Jean-Marc Rouillant au téléphone parce que ça lui vaudrait, ça pourrait lui valoir 5 ans de plus en prison, quoi. Donc on les coupe, quoi. On se dit on peut pas, on laisse ça. Le film est saisi, la justice s'en empare, ça peut être une pièce à charge pour lui, quoi, contre lui. Donc c'est vrai que c'est compliqué de tourner des films avec des gens qui restent en prison et qui ont des affaires très lourdes, parce que la parole n'est pas hyper libre, il y a un peu d'autocensure quand même chez certains, même s'ils avaient quand même relativement confiance en nous. Ils savaient qu'on n'était pas là pour les condamner ou pour les juger, mais c'est pas facile par rapport à ceux qui sont en prison, quoi. Alors je pensais que quand Jean-Marc Rouillant était sorti, ça allait, la parole allait se libérer. Le problème, c'est qu'il est reparti très vite en prison, quoi. Il est parti parce qu'il a dit qu'il pourrait pas s'exprimer, sauf à condamner les actions pour lesquelles il a été jugé. Il ne pouvait pas s'exprimer là-dessus. Il fallait qu'il se renie, et ça lui a valu ça de repartir en prison. Mais qu'il s'était exprimé sur les actions pour lesquelles il était condamné en disant cela, c'est délirant, quoi. C'est aujourd'hui, Rouillant aujourd'hui est un prisonnier d'opinion. Hein. Il y a en France, on peut dire qu'il y a en France un prisonnier d'opinion. Quelqu'un qui, ça fait 2 ans qu'il est retourné en prison pour cette phrase-là. Ce qui est quand même totalement délirant, quoi. Quand il est sorti de prison, Rouillant travaillait chez une maison d'édition marseillaise indépendante qui s'appelle Agone. Et c'est parce qu'il, pour sortir de prison, il faut avoir un travail. Pour des gens comme ça, en tout cas, il faut qu'ils aient un travail. Et Agone, cet éditeur-là, lui avait proposé un travail de correcteur. Bon, maintenant en prison, il a le temps d'écrire. Hein. Je peux vous dire qu'il est des bouquins de Rouillant, il va en sortir, je sais pas quand, mais il écrit. Il a le temps d'écrire. Voilà, c'est la seule chose un peu positive, c'est qu'il n'est pas interrompu par les coups de fil, Internet, les non. C'est une vie monastique. Avec Jacques et sa compagne Annie, Jacques le moustachu et sa compagne Annie, on est allé visiter Rouillant en déconnant. Moi, je lui dis, on parle du film en train de se faire, et je sais plus pourquoi on cite le titre Ni vieux ni traître, qui s'appelait Ni vieux ni traître avant, et lui il dit non, vous êtes en fait, vous ce qui est à l'extérieur, vous êtes des vieux et traîtres. Bon, l'atmosphère dans le parloir était un peu plombée par. Il était à l'époque, il savait pas s'il allait sortir. C'était avant qu'il ne sorte. Hein. Il avait déjà donc 24 ans de prison derrière lui. Un peu déprimé à ce moment-là, et à la suite de cela, il a écrit une lettre en expliquant pourquoi il tenait ce genre de propos, et il a écrit à Jacques et Annie, donc, cette lettre, en disant « Non, mais je m'inclus là-dedans, c'est pas dirigé contre vous, je pense qu'on a tous échoué, que finalement, qu'est-ce qu'on a par rapport aux ouvriers qui ont réussi à obtenir des acquis sociaux après-guerre ou en 36, par rapport à même à des luttes qui sont mal terminées comme la Commune de Paris, par rapport à des soulèvements populaires comme en Espagne, des choses comme ça. Qu'est-ce que nous, notre génération, nous, celle des Rouillant, doit avoir 57 ou 8 ans là, qu'est-ce qu'on a obtenu, quoi? Qu'est-ce qu'on a obtenu comme grande victoire, notre génération? On est tout le temps sur la défensive. Et il dit, même nous qui nous sommes battus les armes à la main, on a été défaits. Voilà, c'est une sorte de bilan, je pense, à la fois un peu désenchanté, un peu... il était peut-être un peu déprimé ce jour-là, mais je pense que ce constat-là n'est pas non plus totalement... ne manque pas de lucidité. Quand on voit ce qui s'est fait sur un siècle, c'est pas les 20 ou 30 dernières années qu'il y a eu des avancées... révolutionnaire en Europe ou en France. C'est plutôt une série de reculs. Après, ça ne veut pas dire qu'il faille baisser les bras. Enfin, je pense que c'est pas non plus un... Faire ce constat, c'est pas non plus dire qu'il faut rien faire. Mais je pense qu'il faut pas leur demander à eux, avec ce qu'ils ont pris, de proposer des solutions. C'est pas leur boulot. Voilà, ils ont payé, ils ont morflé, ils ont été battus... et en même temps, comme le dit Joël Aubron, ben voilà, à un moment où il n'y avait pas grand monde, on a tenu ce flambeau, nous. Nous, les quelques actions directes dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, où tout le monde était devenu mitterrandiste, où tout le monde pensait que la société, on allait la changer comme ça, on a vu ce qui s'est passé. Ben, nous, on a maintenu ce flambeau révolutionnaire, qu'on le veuille ou pas, et ça sera un jour dans les livres d'histoire, voilà. Ce qu'elles pensent, à tort ou à raison, mais que même s'ils étaient ultra minoritaires, même s'ils étaient coupés de la population, même si leurs actions n'étaient pas populaires, ça c'est indéniable, ils ont maintenu ce flambeau. Est-ce que vous avez encore des questions? Ou sur les autres films, sachant que demain, je serai donc au débat qui suivra à fin de concession, où on pourra aussi parler des autres films éventuellement. Je ne sais pas si on peut dire que leur texte avait une phraséologie. Les textes qui sont lus, d'ailleurs, à un moment donné, il y a un extrait qui est lu, justement, et après, il y a le moustachu qui se moque de ce texte, hein, qui dit « mais vous n'étiez pas très drôle, ça ». Il y avait une langue de bois, mais qui est pas pire que la langue de bois du pouvoir actuel ou des médias actuels. Simplement, elle n'apparaît pas comme telle, la langue de bois d'aujourd'hui. Hein. Je cite toujours l'exemple de quand on utilise le terme « bouclier fiscal ». Hein, on adopte sans rendre compte une langue de bois parce que on fait passer l'idée que les riches se protègent d'une agression en utilisant un bouclier. Donc vous voyez les mots, la langue de bois elle est partout, hein, elle est et on l'utilise même nous sans s'en rendre compte parce qu'on reprend des expressions qui sont de la langue de bois pure et dure, mais qui sont ce qui est celle du capitalisme et on se rend même pas compte que c'est la langue de bois. Hein, quand je vous cite bouclier fiscal, vous l'entendez comme ça, vous dites ben oui c'est normal bouclier fiscal, non c'est la langue de bois, c'est une expression du pouvoir qui est destinée à faire croire que les riches se protègent d'une agression, sont pas des agresseurs, sont des agressés. Un bouclier ça sert pas à attaquer, ça sert à se protéger. Donc la langue de bois elle existe des deux côtés, simplement la leur effectivement a été stigmatisée, a été présentée par les médias comme insupportable, etc., etc. C'était de la langue de bois, mais pas plus que celle des autres, voilà. Après le ils se sont effectivement coupés des mouvements sociaux. Mais bon, de quel mouvement? Qu'est-ce qui restait comme mouvements sociaux au début des années 80, il faut dire aussi, hein, après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, qui a éradiqué ou presque le PC. C'est quand même Mitterrand qui a tué le PC, hein. Le PC n'existe quasiment plus après l'arrivée de Mitterrand. Enfin, il baisse, en tout cas, il n'existe plus. Il existe toujours, mais en tout cas, il perd son influence alors qu'il était à 25% le PC au début des années 70. Faut pas l'oublier. Le Parti communiste. Donc, il y a quand même il faut quand même pointer la responsabilité de l'arrivée de la gauche au pouvoir, même si la première année de la gauche au pouvoir en 80 était une année non pas de réforme mais de mesures relativement radicales, les mesures prises en 81, mais ça n'a duré qu'un an ou un an et demi. Donc eux ils sont arrivés à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils radicalisent leurs actions, c'est à partir de la fin de la politique de la gauche, donc c'est vers 82-83, c'est là qu'ils rentrent vraiment dans la clandestinité, hein, c'est pas avant, c'est vraiment là qu'ils rentrent dans la clandestinité, et qu'effectivement ils sont coupés, ils sont de la population ou du monde syndical, qui sont très minoritaires, qui vivent en vase clos, et que le pari qui est le leur de mener des actions qui vont être populaires s'avère être une défaite, bien sûr. Mais c'est marrant parce que moi j'ai présenté ce film, par exemple, la version antérieure, Ni vieux ni traite, je l'ai présenté, je me souviens, en 2004 à Quimper, la toute première projection à Quimper, il y avait le frère de Claude Alphen qui ne renie pas ce qu'il a fait. Il a fait 15 ans de prison. Il était là pour débattre avec les spectateurs. C'était un public attaque, militant, de gauche, voilà, bon. Et les gens étaient outrés parce qu'à un moment donné, la peine de mort avait été appliquée contre des patrons par le groupe Action Directe. Et lui disait, oui, on a fait couler le sang, mais le sang, voilà, on fera jamais couler autant de sang que le capitalisme. 4 ans plus tard, en 2008 ou 2009, je sais plus, l'an dernier, je suis allé présenter le film à Agen. Le même public ou des gens très similaires dans la salle. Et je me souviens que j'ai tout de suite vu une bascule. J'ai vu des gens qui disaient, non mais ce qu'ils ont fait, c'est parfaitement légitime. Vous avez vu les suicides chez France Télécom, vous avez vu les machins, les trucs. Ils trouvaient même que c'était des réformistes, Action Directe ou presque, hein, le public ce jour-là. Donc c'est étonnant de voir la lisibilité de certaines actions en fonction de la période dans laquelle on se trouve. Voilà. Et aujourd'hui, où le capitalisme apparaît, malgré les efforts des médias, comme relativement violent, ou comme, enfin, il est très violent, mais il apparaît comme relativement violent. Tout d'un coup, on peut se remettre à évoquer ces affaires, ces questions, sans forcément y adhérer, mais en tout cas, on peut réfléchir, on peut se poser des questions, on peut en discuter. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose, je pense. Pas que le capitalisme soit devenu aussi violent, c'est qu'on puisse reparler sereinement de tout cela. Et je crois que même si les médias continuent de mettre les touffoirs, continuent de censurer les reportages sur Joël Aubron, continuent de fabriquer des téléfilms comme celui de TF1, on devrait pouvoir, dans pas longtemps, reparler de ces questions-là. Voilà, comment est-ce qu'il faut s'attaquer frontalement ou pas au système capitaliste. Voilà, c'est des questions qui seraient, dont on peut rediscuter, je pense. Et si ce film-là, au moins, a cet effet de pouvoir en rediscuter, ça serait déjà pas mal. En Italie, il y a une stigmatisation de la figure du terroriste issu de l'extrême gauche, que ce soit les Brigades Rouges, Prima Linea, Lotta Continua, tout ça, terrible. D'ailleurs, même la gauche, on va dire, pas l'extrême gauche, mais bon, mais une grande partie de la gauche a demandé l'extradition de Battisti, qui est un des Italiens qui sont réfugiés en France. Donc là-bas, c'est encore pire qu'ici aujourd'hui. Chez Berlusconi en Italie, l'Italie Berlusconi, les médias sont encore plus stigmatisent encore plus ces gens-là. Donc l'équivalent de ceux d'Action Directe en Italie sont encore plus stigmatisés. Puis il y a eu le phénomène des repentis très fort. Donc des lois d'exception ont été votées dans les années 80 pour faire des énormes remises de peine à ceux qui balanceraient leurs petits camarades. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu d'énormes phénomènes de repentis, des gens qui ont sauvé leur peau et pas fort peau en balançant leurs camarades ou en jouant les balances, quoi. Donc ça, c'est un phénomène italien. En Allemagne, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a plus de gens de la RAF en prison, je crois qu'ils sont tous sortis. Les derniers, il y a pas très longtemps. Sachant qu'en Italie et en Allemagne, la lutte armée a une ampleur beaucoup plus importante qu'en France, hein. Beaucoup plus importante. Mais la France reste le seul pays, c'est bizarre, le seul pays où il n'y a pas une fiction autour de son groupe de lutte armée, une fiction indépendante, un film indépendant. En Italie, vous avez eu un film sur les Brigades Rouges, il y en a eu un sur plusieurs même. En Allemagne, vous avez eu un film sur la bande à Bader. En Irlande, il y a eu des films sur l'IRA, Bloody Sunday, ou le film sur Hunger, là, le film sur Bobby Sands. Il y a eu des films sur le TA, El Lobo, des films sur le Mille dont on parle là, Salvador. En France, il n'y a jamais eu un seul film sur Action Directe, à part ce téléfilm de TF1. Voilà. Aucun film indépendant, on va dire, indépendant. Donc c'est vraiment un sujet tabou, et peut-être que c'est tabou parce qu'effectivement maintenant ça résonne tout ça. Ça résonne plus qu'hier, donc c'est encore moins le moment pour ceux qui ont un peu de puissance, d'influence, d'argent, d'en parler ou de mettre ça sur la place publique. Voilà. Et on va essayer, nous, avec ce film, quand il sera fini, de briser ce mur-là, quoi. C'est pas gagné. Moi, je projette souvent des versions de travail de mes films. Lorsque l'occasion se présente, là, c'est un peu exceptionnel. C'est parce qu'il y a une rétrospective de mon travail ici. Donc, c'est difficile de ne pas mettre soit Ni vieux ni traite, soit celui-là. Donc, voilà pourquoi on l'a projeté. Mais je l'ai pas revu là. Mais oui, ça, lorsque c'est le début d'un montage, lorsqu'on n'a aucun retour, c'est intéressant de projeter le film en salle pour un réalisateur. Parce que c'est l'épreuve de vérité, la salle. C'est là qu'on voit l'attention, l'écoute, si les gens s'emmerdent, si les gens sont captivés, si les gens se posent des questions. Enfin bon, c'est un retour qui n'a pas d'équivalent à la salle de en salle de montage. On s'en rend pas compte. On est dans notre histoire, on est complètement là-dedans. On a plein de préacquis, nous. On sait déjà trop de choses. Donc c'est toujours intéressant de le livrer au public. Mais celui-là, on l'a beaucoup fait. Donc là, c'est un peu exceptionnel. Il n'était pas question de le... Voilà, c'est parce que il y avait cette rétrospective qu'on l'a présenté. Sinon, c'est l'ancienne version qui aurait été projetée. Voilà. Plus de questions. Bonsoir. Peut-être à demain.
C'était il n'y a même pas 30 ans, mais ça paraît déjà si loin. Les rues s'enflammaient de partout, encore une fois, le combat semblait atteint. Toute l'Europe laissait les groupes, les hommes, les femmes prenaient le chemin de la guerre. La révolution pour demain, la haine de classe ne s'armait plus que de colère. La réponse des maîtres violents, puis nous des morts, des centaines d'années de prison. De la torture, de l'isolement, des fois suicides commis par c'est fort de m'attendre. J'ai pu t'enfuir d'une guerre privée. L'état média hurla au peuple qu'ils avaient tort. Mais quel prolétaire a pleuré le jour où Monsieur Bess est mort. Et puis la traque porte à ses fruits, la police peignant ses balances. Et la lutte continue en col malgré les climats et malgré la torture blanche. Hey, le capitaine n'oublie jamais, sa vengeance durera jusqu'à la mort. Le peuple non plus n'oublie pas les HLM aux usines Renault à Villeborde.